إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication du livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous en sommes arrivés au chapitre concernant le pacte pris au nom d'Allah et de son prophète. Le Cheikh a cité: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Soyez fidèles au pacte pris au nom d'Allah après l'avoir contracté, et ne rompez pas vos serments après les avoir prêtés solennellement. Puis le Cheikh a cité: Bureida a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait un chef d'armée ou d'expédition, il le conseillait en tête à tête de craindre Allah et de se comporter de la meilleure façon avec les musulmans. Il ajoutait ensuite: attaquez au nom d'Allah, sur la voie d'Allah, combattez ceux qui ont mécru en Allah, attaquez et ne prenez aucune part du butin avant qu'il ne soit distribué. N'employez pas la traîtrise, ne mutilez pas les corps, ne tuez pas d'enfants. Si tu rencontres les ennemis polythéistes, invite-les à accepter une des trois choses. Quelle que soit celle à laquelle ils consentent, accepte leur consentement. Invite-les à l'islam. S'ils l'acceptent, accepte leur conversion. Invite-les ensuite à quitter leur terre pour celle des émigrés, et informe-les que s'ils le font, ils auront les mêmes droits et les mêmes devoirs que les émigrés. Si en revanche, ils refusent de quitter leur terre, informe-les qu'ils seront traités de la même façon que les bédouins musulmans, sur qui le jugement d'Allah, le Très-Haut, s'applique, qu'ils n'auront droit à aucune part du butin ou du fey, sauf s'ils combattent avec les musulmans. La différence entre le butin et le fey, c'est une parenthèse, hein, c'est pas dans le hadith, c'est que le butin, c'est ce qui est gagné après une bataille, alors que le fey, c'est les biens qui sont pris des mécréants par les musulmans sans confrontation armée, si par exemple ils se sont enfuis sans qu'il y ait confrontation. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en revenant au hadith, qu'ils auront donc les mêmes droits que les bédouins musulmans sur qui le jugement d'Allah, le Très-Haut, s'applique, qu'ils n'auront droit à aucune part de butin ou de fey, sauf s'ils combattent avec les musulmans. S'ils refusent l'islam, alors demande-leur de verser la jizya. La jizya, c'est un impôt versé par les minorités kafira, non musulmane, en terre d'islam, en contrepartie duquel ils reçoivent la protection. S'ils consentent à la payer, acceptent leur consentement et arrêtent le combat. Si en revanche, ils refusent, alors invoquent l'aide d'Allah et combat-les. Si tu assièges une citadelle et que ses occupants te demandent de leur accorder un pacte au nom d'Allah et de son prophète, de les épargner, n'accepte pas, mais promets-leur de les épargner selon le pacte pris en ton nom et de celui de tes compagnons. Car si tu venais à manquer à ta parole, il vaudrait mieux pour vous de trahir le pacte pris en ton nom que celui en ton nom et celui de tes compagnons, plutôt que de trahir celui pris au nom d'Allah et de son prophète. Si en outre tu assièges une citadelle et que ses occupants te demandent de décider de leur sort selon la loi d'Allah, alors n'accepte pas, mais juge plutôt selon ton opinion, car tu ne sais pas si ton jugement sera en accord avec la loi d'Allah, rapportée par l'imam Muslim. Ce chapitre qui parle du pacte pris au nom d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il faut respecter le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie du tawhid, de vénérer le nom d'Allah. Et quand on prend un pacte au nom d'Allah et au nom de son prophète, il faut le respecter. C'est comme une personne aussi qui jure au nom d'Allah, il doit respecter son serment. Ceci prouve la vénération qu'il a pour le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la différence des gens qui ne donnent aucune importance. Ils donnent des pactes au nom d'Allah, ils jurent au nom d'Allah, et ils transgressent leurs promesses pour un oui, pour un non. Donc le cheikh a cité d'abord un verset, où dans le sens, Allah ta'ala dit « Soyez fidèles au pacte pris au nom d'Allah, après l'avoir contracté, et ne rompez pas vos serments après les avoir prêtés solennellement. » Les savants ont expliqué le sens du pacte comme étant les contrats passés entre les gens. Entre autres ici, le contrat de protection ou le fait de les laisser sains et saufs par exemple. D'autres exégètes ont expliqué que le pacte cité ici désignait le serment. Il est donc obligatoire d'être fidèle au contrat et au serment par vénération du droit d'Allah Azza wa Jal. En effet, celui qui jure par Allah affirme en son nom, subhanahu wa ta'ala, qu'il tiendra sa promesse. Donc, s'il trahit sa promesse ou ne la tient pas, cela signifie qu'il n'a pas vénéré correctement Allah Azza wa Jal, au point de craindre de ne pas respecter sa promesse, enfreignant ainsi le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Puis le cheikh a cité le long hadith de Bureida que nous avons lu ensemble. Ce hadith, il indique clairement la vénération nécessaire envers Allah Azza wa Jal qui consiste ici à ce que le serviteur n'offre pas aux gens un pacte pris au nom d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais offre plutôt un pacte pris en son propre nom. Il y a d'ailleurs dans ce hadith un grand enseignement adressé aux adeptes du tawhid et aux étudiants en sciences qui accordent de l'importance à cette science et dont les gens savent qu'il en est ainsi. Il ne faut pas qu'émanent d'eux des propos ou des actes indiquant qu'ils ne mettent pas en application cette science. Il convient donc de te rendre compte que les gens t'observent, en particulier à cette époque pleine de doutes et d'ambiguïté et de troubles. Et considérant que tu portes une part de la sunna en toi et du tawhid, par conséquent ton comportement envers eux doit faire transparaître la vénération du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cette vénération doit engendrer aussi la leur, le fait que eux, ils vénèrent Allah subhanahu wa ta'ala et son nom. Ainsi, il ne faut pas trahir les serments ni le pacte pris au nom d'Allah. Et il ne faut avoir peur de personne pour dire la vérité et pour faire des vrais témoignages et d'être juste dans les transactions, car tout ceci diminue l'effet de la science et de la religion que la personne porte en soi. On voit dans ce hadith, certains pourraient se demander, si les ennemis disent « Protège-nous selon, on te demande protection ou un pacte au nom d'Allah et de son prophète, comment on ne leur donne pas ?» Car c'est par crainte que la personne ne le respecte pas. Et c'est un manque de vénération envers les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis à la fin du hadith, quand ils disent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si en outre tu assièges une citadelle et que ses occupants te demandent de décider de leur sort selon la loi d'Allah, alors n'accepte pas, mais juge plutôt selon ton opinion. Car tu ne sais pas si ton jugement sera en accord avec la loi d'Allah. Effectivement, ici il ne s'agit pas d'un texte révélé. Par exemple, quand un chef d'armée doit juger le cas de certaines personnes, leur situation, que faire d'eux, ceci revient à son effort d'interprétation à lui. Alors s'il vient et leur dit, le jugement d'Allah est que je vous fasse telle chose ou telle chose, il pourrait mentir sur Allah. Il pourrait se tromper dans son jugement. Et ceci est contraire à la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis plutôt que tu juges selon ton opinion, c'est-à-dire selon ta compréhension des textes, selon ton effort d'interprétation, pour savoir qu'est-ce qu'Allah ta'ala veut de toi dans cette situation. Par contre, si ça aurait été dans un cas où il y a des règles religieuses claires qui sont déterminées, il n'est pas permis d'agir de la sorte. Bien sûr, on agit selon la loi d'Allah qui est claire, qui est révélée dans le Coran et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis le cheikh, comme à son habitude, a cité les points à retenir. Et premièrement, la différence entre le pacte pris au nom d'Allah et de son prophète et le pacte des musulmans. Deuxièmement, le conseil de choisir entre deux mots le moindre. Troisièmement, la parole prophétique attaquée au nom d'Allah sur la voix d'Allah. Quatrièmement, la parole prophétique combattez ceux qui ont mécru en Allah. Cinquièmement, la parole prophétique invoque l'aide d'Allah et combat-les. Sixièmement, la différence entre le jugement d'Allah et celui des savants. Ça, c'est très important. C'est ce point-là, justement, qu'il a cité à la fin du hadith, que l'on a expliqué tout à l'heure. La différence entre le jugement d'Allah et celle des savants. C'est pour ça que l'on trouve que les savants divergent. Alors que la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne peut pas diverger. La loi d'Allah est une. Les savants font des efforts d'interprétation pour trouver la vérité. Mais la vérité n'est qu'une. Dans tous les avis des savants, il n'y a qu'un avis qui est juste. À chaque fois, sur chaque situation, il ne peut y avoir qu'une vérité. Il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Auprès d'Allah, une chose, elle ne peut pas être halal et haram en même temps. Elle ne peut pas être sunna et bid'a en même temps. La seule chose sur lesquelles différents avis sont acceptables, c'est par exemple des points sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué déjà de plusieurs manières. C'est un même acte, il lui est arrivé de le pratiquer de telle manière et une autre fois d'une manière différente, et toutes ces manières sont acceptables car elles sont rapportées de manière authentique, par exemple. Comme par exemple dans certaines manières de faire l'adhan, comme par exemple certaines sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans certains actes d'adoration et d'autres qui ont été rapportées. Comme par exemple les invocations à dire le matin et le soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les disait pas toutes, tous les jours. Parfois il disait celle-ci, parfois il disait l'autre, comme les invocations parfois qu'on dit aussi après la salat. Donc ici, ce n'est pas une divergence qui se contredit. Ce sont juste différentes manières qui ont été rapportées, qui ne se contredisent pas l'une l'autre. Par contre, s'il y a des règles religieuses qui se contredisent l'une l'autre, il ne peut y avoir qu'une vérité dans tout cela. Et les musulmans doit toujours être prêt à accepter la vérité et à la suivre. Même si il a eu une éducation avec un cheikh, avec un savant, sur une école juridique, il n'y a pas de mal d'apprendre sur une école juridique, sur un madhab parmi les madhahib de Ahl-Sunnah, que ce soit le madhab al-Maliki, ou bien al-Hanbali, ou al-Shafi'i, ou autre. Mais quand la vérité lui apparaît, quand les preuves apparaissent sur un avis qui est contradictoire à ce qu'il a appris, il doit être prêt à suivre la vérité. De même, ceci est vrai pour ceux qui prennent des cours avec un professeur ou avec un cheikh, qui ont l'habitude d'écouter un cheikh, par exemple. Puis, sur certains avis, en évoluant dans la science, il va se rendre compte que tel ou tel avis n'était peut-être pas le plus juste. D'ailleurs, il faut savoir, il n'y a pas une personne sur Terre, parmi les savants, on parle bien sûr, non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui détient toute la vérité car elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais après lui, parmi les savants, il n'y en a pas un qui détient toute la vérité. Tout le monde se trompe. Mais alhamdulillah, la vérité ne sort pas du cercle des gens de la sunna et des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire, s'ils ont divergé sur un sujet, il y a au moins un avis dans cela qui est juste. Et s'ils n'ont pas divergé sur un sujet, c'est-à-dire qu'il y a une unanimité, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun doute que cet avis est le bon. Donc voilà ici cette leçon que l'on tire de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au chef d'armée quand il lui est demandé de juger selon la loi d'Allah. Effectivement, le savant, la personne qui a le degré de science pour pouvoir tirer des règles des textes, il se doit de chercher la loi d'Allah. Mais quand il donne son avis, quand les gens lui demandent son avis, il va dire « mon avis est telle chose ». Il ne va pas dire « la loi d'Allah est telle chose ». Parce qu'il n'est pas sûr quand c'est un sujet à divergence. Quand c'est un sujet où les preuves ne sont pas si claires que ça. Il ne peut pas clairement dire « ça c'est la loi d'Allah ». Il va dire « d'après ma compréhension des textes, c'est cet avis qui paraît le plus juste. C'est cet avis qui s'approche le plus des preuves. » Par exemple, à la différence des sujets sur lesquels il y a unanimité, ou bien sur les sujets sur lesquels il y a des textes clairs du Coran et de la Sunna authentique. Où là, il peut se permettre de dire clairement « ceci est la loi d'Allah ». Et le cheikh a cité aussi, donc on a dit le sixième point à retenir, la différence entre le jugement d'Allah et celui des savants. Septièmement, il est possible qu'un compagnon, dans la nécessité, décrète un jugement sans savoir s'il est en accord avec le jugement d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la possibilité de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander. Il sera loin, il sera en bataille. Et là, il devra prendre des décisions. Il n'a pas le temps, la possibilité de revenir, demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la loi d'Allah dans cette situation et repartir. Donc il sera obligé de faire un effort d'interprétation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas avec lui pour lui enseigner à ce moment-là. Il ne pourra le savoir que quand il retournera. Et exposera sa situation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là agrée et approuve ce qu'il a fait, alors ce sera la révélation. Ce sera considéré comme être révélé. Car Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas laisser le faux être fait sans le reprendre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui est pas permis de taire la vérité. Car son message et son devoir est de transmettre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, une part de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'approbation. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de son vivant, c'est comme s'il l'avait dit ou il l'avait fait. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Voilà ce que l'on peut retenir en résumé